Chapitre 12. Les filles aux cheveux de feu. Elle était rousse et portait une robe grise sans manches. Grenouille était penchée au-dessus d'elle et aspirait maintenant son parfum sans aucun mélange, tel qu'il montait de sa nuque, de ses cheveux, de l'échancrure de sa robe. Jamais il ne s'était senti si bien. Patrick Suskind. Les exemplaires de Courrier Sud étalés devant moi, je me précipitai sur le numéro de janvier 1993 qui rendait compte du bal de fin d'année. J'avais espéré y trouver un grand nombre de photos, mais malheureusement, seuls quelques clichés académiques restituaient l'ambiance de la soirée et aucun ne me permit d'identifier l'homme que je cherchais. Déçu, je continuai néanmoins à parcourir les différents numéros pour m'imprégner de l'atmosphère de l'époque. Le journal du lycée était une mine d'or pour avoir un aperçu de la vie scolaire du début des années 1990. Toutes les activités y étaient annoncées et relatées en détail. Je feuilletai les pages au hasard, furetant à travers les événements qui rythmaient le quotidien du lycée. Les résultats sportifs des champions du campus, le voyage des classes de seconde à San Francisco, la programmation du ciné-club, Hitchcock, Cassavetes, Pollack, les coulisses de la radio du lycée, les poèmes et les textes des participants à l'atelier d'écriture. Jean-Christophe Graff y avait fait publier ma nouvelle au printemps 1992. En septembre de la même année, le Club Théâtre annonçait son programme pour l'année à venir. Parmi les performances, une adaptation très libre, sans doute écrite par ma mère qui s'occupait du club à cette époque, de certains passages du Parfum de Patrick Suskind, avec Vinka dans le rôle de la fille de la rue du Marais et Fanny dans celui de Laure Richie. Deux rousses aux yeux clairs, pures, tentatrices, et qui, si je me souvenais bien du roman, finissaient assassinées par Jean-Baptiste Grenouille. Je n'avais aucun souvenir d'avoir vu cette pièce, ni des réactions qu'elle avait suscitées. J'ouvris le livre de Pianelli pour savoir s'il l'évoquait dans son enquête. Le journaliste n'en faisait aucune mention, mais en feuilletant l'ouvrage, je tombai dans le cahier photo sur le fac-similé des lettres envoyées par Alexis Clément à Vinka. En relisant les missives pour la centième fois, je fus parcouru d'un frisson et j'éprouvai la même frustration que j'avais déjà ressentie chez Dalla Negra, la sensation de frôler la vérité mais de la laisser échapper aussitôt. Il y avait un lien à faire entre le contenu des lettres et la personnalité de Clément, mais une barrière mentale m'en empêchait, un blocage psychique, comme si je craignais un retour du refoulé dans le champ de ma conscience. Le problème, c'était moi, ma culpabilité, cette conviction que j'avais toujours eue d'être responsable d'un drame que j'aurais pu éviter si j'étais resté le garçon différent des autres. Mais à l'époque, aveuglé par ma souffrance et ma passion destructrice, j'étais passé à côté de la dérive de Vinka. Mû par une intuition, je pris mon portable et appelai mon père. « Tu peux me rendre un service, papa ?»«
Dis-moi, » grogna Richard.
« J'ai laissé des affaires sur la table de la cuisine. »«
Ouais, c'est un bordel sans nom, » confirma-t-il.
Parmi les papiers, il y a d'anciennes rédacs de philo. Tu les vois ?
Non.
Fais un effort, papa, s'il te plaît. Ou alors passe-moi maman.
Elle n'est pas encore rentrée. Bon, attends, je vais mettre mes lunettes.
Je lui expliquai ce que je voulais. Qu'il photographie avec son téléphone les appréciations manuscrites portées par Alexis Clément sur mes dissertations et qu'il me les envoie par SMS. Ça aurait dû prendre 2 minutes. Ça a pris un bon quart d'heure, agrémenté de réflexions serties du sceau de l'amabilité légendaire de mon père. Il était déchaîné, à tel point que notre conversation se clôtura par cette remarque.
« À 40 ans, tu n'as pas autre chose à foutre que de te replonger dans tes années lycée. C'est à ça que se résume ta vie ? Nous emmerder à longueur de journée en remuant le passé ?»«
Merci, papa. À tout à l'heure. » Je récupérai les annotations manuscrites d'Alexis Clément et les ouvris sur mon écran. Comme certains écrivains prétentieux, le prof de philo aimait bien se regarder écrire. Mais ce n'était pas le fond de sa pensée qui m'intéressait. C'était sa calligraphie. Je zoomai et étudiai ses pleins et ses déliés. C'était un tracé paresseux. Pas des pattes de mouche, plutôt une écriture d'ordonnance de médecin, où il fallait parfois s'interroger plusieurs secondes pour comprendre le sens d'un mot ou d'une formule. Au fur et à mesure que je découvrais les images, je sentais mon cœur s'accélérer. Je les comparais avec les lettres adressées à Vinka et la dédicace sur le recueil de poèmes de Marina Tsvetaeva. Et bientôt, le doute ne fut plus permis. Si l'écriture manuscrite de la lettre et celle de la dédicace étaient bien identiques, il n'en allait pas du tout de même avec les copies corrigées par le prof de philo. 2. Je sentais des palpitations dans tout mon corps. Alexis, Clément, n'était pas l'amant de Vinka. Il y avait un deuxième homme, un autre Alexis. Sans doute celui à la silhouette flottante qui figurait de dos sur la photo. Celui avec qui elle était partie ce fameux dimanche matin. C'est Alexis qui m'a forcé. Je ne voulais pas coucher avec lui. Les paroles de Vinka étaient justes, mais je les avais mal interprétées. Tout le monde depuis 25 ans les avait mal interprétées. À cause d'une photo recadrée et d'une rumeur lancée par les élèves, on avait prêté à Vinka une liaison avec un homme qui n'avait jamais été son amant. Mes oreilles bourdonnaient. Les implications de cette découverte étaient si nombreuses que je peinais à toutes les rassembler. La première était la plus tragique. Maxime et moi avions tué un innocent. Il me semblait entendre les hurlements de Clément tandis que je lui explosais la poitrine et le genou. Par flash, je revoyais la scène avec netteté. L'expression hébétée du prof lorsque je le frappais avec ma barre de fer.
« Pourquoi tu l'as violé, espèce de taré ?»
Son visage déformé par la surprise trahissait son incompréhension. Il ne s'était pas défendu, tout simplement parce qu'il ne saisissait pas de quoi je l'accusais. À l'époque, devant sa stupeur, une voix avait résonné en moi. Une force de rappel qui m'avait fait lâcher mon arme. Et puis Maxime était entré en scène. Les larmes aux yeux, je me pris la tête entre les mains. Alexis Clément était mort par ma faute, et rien de ce que je pouvais faire ne le ramènerait jamais. Je demeurai prostré 10 bonnes minutes avant d'être capable de penser à la suite. J'analysais ma méprise. Vinka avait bien un amant qui répondait au prénom d'Alexis. Sauf que ce n'était pas le prof de philo. Ça paraissait à peine croyable. Trop gros pour être vrai, mais pourtant la seule explication possible. Mais qui alors ? À force de cogiter, je me souvins vaguement d'un élève. Alexis Stéphanopoulos, ou quelque chose comme ça. Une sorte de caricature du riche grec. Le fils d'un armateur qui, pendant les vacances, invitait ses copains et ses copines à l'accompagner dans les croisières autour des Cyclades. Autant dire que je n'en avais jamais été. Je m'emparai du yearbook de l'année scolaire 1992-1993 que m'avait apporté Pauline Delatour. À la mode américaine, l'ouvrage était une sorte d'annuaire photographique qui recensait tous les élèves et les professeurs ayant fréquenté le lycée cette année-là. Je le feuilletais avec fébrilité. Comme les noms étaient classés par ordre alphabétique, je trouvai le grec dès les premières pages. Antonopoulos, Alexis, né le 26 avril 1974 à Salonique. Sa photo le représentait tel que je m'en souvenais. Des cheveux mi-longs bouclés, une chemisette blanche, un pull marine à écusson. Le portrait joua comme une amorce pour enflammer ma mémoire. Je me rappelais que c'était l'un des rares garçons inscrits en Hippocagne. Un type sportif, champion d'aviron ou d'escrime. Un helléniste, pas très intelligent, mais capable de réciter par cœur des passages de Sappho ou de Théocrite. Sous le vernis de la culture, Alexis Antonopoulos n'était qu'un Latin lover un peu bêta. J'avais vraiment du mal à croire que Vinka se soit damné pour ce sot. D'un autre côté, je n'étais pas le mieux placé pour disserter sur la question. Et si, pour une raison que je ne m'expliquais pas, le grec nous en voulait à Maxime et à moi. Je cherchais ma tablette dans mon sac, mais je l'avais laissée dans la voiture de location que m'avait empruntée ma mère. Je me contentais donc de mon téléphone pour faire quelques recherches. Je retrouvais facilement la trace d'Alexis Antonopoulos dans un reportage photo du site Point de Vue datant de juin 2015 et consacré au mariage de Carl-Philippe de Suède. Avec sa troisième femme, Antonopoulos faisait partie des Happy Few conviés à la cérémonie. De clic en clic, je parvins à esquisser un portrait du bonhomme. Vaguement homme d'affaires, vaguement philanthrope, le grec menait une vie de jet-setter, partageant son temps entre la Californie et les Cyclades. Le site de Vanity Fair mentionnait sa présence presque chaque année au fameux gala de l'âme phare. Organisé pour récolter des fonds au bénéfice de la recherche contre le sida, la soirée avait lieu traditionnellement durant le Festival de Cannes, dans le cadre prestigieux de l'hôtel Eden Rock. Antonopoulos avait donc gardé des attaches avec la Côte d'Azur, mais rien qui permette d'établir un lien probant entre lui et nous. Comme je n'avançais pas, je décidai de changer de cap. Au fond, quelle était la racine de tous nos tourments? C'était la menace que faisait planer sur nous la destruction programmée de l'ancien gymnase. Cette destruction s'inscrivait elle-même dans le cadre de travaux pharaoniques qui devaient remodeler le site du lycée avec l'édification d'un nouveau bâtiment de verre, la construction d'un centre sportif ultramoderne doté d'une piscine olympique et l'aménagement d'un jardin paysager. Ce projet global était un serpent de mer. On en parlait déjà il y a 25 ans, mais il n'avait pas été lancé, car le lycée n'avait jamais réussi à réunir les fonds colossaux nécessaires. D'après ce que je savais, le mode de financement de l'institution avait évolué au fil des décennies. Totalement privé à sa création, le lycée Saint-Exupéry était ensuite devenu une structure mixte, entrant peu ou prou dans le giron de l'éducation nationale et recevant des subventions de la région. Mais ces dernières années, un vent de rébellion avait soufflé sur Saint-Ex. Une volonté très forte d'émancipation s'était emparée des différents acteurs éducatifs pour libérer le lycée de la bureaucratie. L'élection de François Hollande avait accéléré les choses. Le bras de fer avec l'administration avait abouti à une sorte de sécession. Le lycée avait regagné son autonomie historique, mais il avait perdu ses financements publics. Les frais de scolarité avaient augmenté, mais selon moi, ils ne pouvaient représenter qu'une goutte d'eau dans l'océan de fric nécessaire pour financer les travaux prévus. Pour s'engager dans ce type de projet, l'établissement avait dû recevoir une énorme donation privée. Je me souvenais des propos de la directrice le matin même, lors de la pose de la première pierre. Elle avait remercié les généreux mécènes qui avaient permis de lancer le chantier le plus ambitieux qu'ait connu notre établissement. Mais elle s'était bien gardée de citer des noms. C'était une piste à creuser. Je ne trouvais rien sur Internet, du moins rien de directement accessible. L'opacité la plus complète régnait sur le financement de ces travaux. Si je voulais avancer, je n'avais pas d'autre choix que de ramener Stéphane Pianelli dans la danse. Je rédigeai à destination du journaliste un SMS résumant ce que j'avais découvert. Pour donner de la force à mes propos, je lui envoyais également les photos des échantillons d'écriture. Celle d'Alexis Clément sur mes copies de philo et celle de l'homme mystère sur les lettres et la dédicace adressée à Vinca. Il me rappela dans la seconde. Je décrochai avec une certaine appréhension. Pianelli était un excellent sparring partner, un esprit vif qui permettait d'élargir sa réflexion. Mais dans ma situation, je marchais sur un fil. Je devais lui lâcher des infos en évitant qu'elle ne se retourne un jour contre moi ou contre Maxime et Fanny. 3.
Putain, c'est dément !
Lança Pianelli avec une pointe d'accent marseillais.
Comment t'as pu passer à côté de ça ?
Le journaliste était presque obligé de hurler pour couvrir les bruits de la foule dans les tribunes du circuit de Monaco. Les témoignages et la rumeur allaient dans ce sens, dis-je. Ton pote Angevin avait raison. Tout le monde s'est fait intoxiquer depuis le début. J'enchaînais en évoquant la photo recadrée par Dalla Negra et la présence d'un deuxième homme sur le cliché.
Attends, tu veux dire que ce mec s'appellerait aussi Alexis ?
T'as bien compris ? Il y eut un long silence pendant lequel Pianelli devait être en pleine cogitation. Au bout du fil, il me semblait presque entendre les rouages de son cerveau en train de mouliner. Il mit moins d'une minute pour remonter la même piste que moi.
« Il y avait un autre Alexis à Saint-Ex »
lança-t-il.
« Un grec ! On se foutait tout le temps de lui en l'appelant Rastapopoulos, tu te souviens ?»«
Alexis Antonopoulos. »«
C'est ça !
J'y ai pensé, » dis-je.
« Mais ça m'étonnerait que ce soit le type qu'on recherche. »« Pourquoi pas ?»«
C'était un blaireau, je vois pas Vinca avec ce mec. »
C'est un peu court, non? Il était riche, beau gosse, et ça se saurait s'il y a 18 ans, les filles ne sortaient qu'avec des types intelligents. Tu te souviens pas comment on en a bavé?
Je changeais de sujet.
T'as des tuyaux sur le financement des travaux du lycée?
Le bruit de fond diminua d'un coup, comme si Pianelli avait trouvé refuge dans un endroit insonorisé.
Depuis quelques années, Saint-Ex fonctionne à l'américaine. Des frais d'inscription hors de prix, quelques riches parents d'élèves qui font des dons pour voir leur nom accolé à des bâtiments, et un petit nombre de bourses accordées à des élèves défavorisés et méritants, de manière à se donner bonne conscience.
Mais les travaux prévus vont coûter des millions. Comment la direction a-t-elle pu réunir cette somme?
J'imagine qu'ils en ont emprunté une partie. Les taux d'intérêt sont bas en ce moment et aucun emprunt ne peut couvrir cette somme, Stéphane.
Tu voudrais pas creuser cette piste? Voyant arriver l'entourloupe, il botta en touche.
Je saisis pas le lien avec la disparition de Vinca.
Fais-le, s'il te plaît.
J'aimerais juste vérifier quelque chose.
Si tu ne me dis pas ce que tu cherches, je vais creuser dans le vide.
Je cherche si un particulier ou une entreprise n'aurait pas fait un don conséquent pour financer la construction des nouveaux bâtiments, de la piscine et du jardin.
Ok, je vais mettre un stagiaire sur le coup.
Non, pas un stagiaire. C'est sérieux et difficile. Demande à un mec aguerri.
Fais-moi confiance. Le jeune auquel je pense est une sorte de chien truffier. Et il ne porte pas dans son cœur la caste qui essaie de s'approprier Saint-Ex.
Un mec un peu comme toi, donc. Pianelli eut un petit rire et m'interrogea.
Tu t'attends à trouver qui derrière ce financement ?
J'en sais rien, Stéphane. Et tant qu'on y est, j'ai autre chose à te demander. Qu'est-ce que tu penses de la mort de Francis Biancardini ?